Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qui est, putain de merde!
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve!
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, je suis médecin.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Avouez, cher monsieur, que la mésaventure qui va suivre vous est déjà.
Cette crise est en fait au départ un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est l'heure de le mettre.
Pas tout de bouche, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'est pas rien, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
La révolution par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu fallait le tapis avec ton sang.
C'est pour vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer à des...
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutues femmes rouges,
hein ? Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est dans le mètre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis, un petit peu de rouge. Et puis, un petit...
30 ans après, c'est encore le même conseil social, et la chanson, c'est la même.
Il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs, et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu vas forcément toucher, les jamais tombé en panne de poste. Tu dis tant que je connais pas. C'est quand même curieux, alors. Tant que j'ai dit, jamais je tombe en panne.
Il faut que ce soit tout le temps. Merde, on en rend, merde. Avec un lait, du one, avec un lait, du one.
Ou coucou, 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 bah.
Aujourd'hui, mercredi 7 avril, c'est la Sainte Réunion non mixte. Sainte Réunion non mixte est la sainte patronne d'une majorité de minoritaires opprimée par une minorité de majoritaires. C'est sous l'impulsion d'un club de vieux bourgeois blancs appelés sénateurs que l'antiracisme, cette spécialité bien française, hein, au même titre que le cassoulet, la choucroute ou la laïcité, a pu faire un pas de géant en canonisant Sainte Réunion non mixte au nom des valeurs universelles de la République, laquelle prévoit dans son règlement intérieur qu'on doit pouvoir mélanger les torchons et les serviettes. Alors, l'histoire ne nous dit pas si les dîners clandestins de la haute appliquent cette disposition, mais comme chacun sait, de toute façon, les pauvres, les noirs et les arabes ne sont pas en mesure de décortiquer correctement le homard. C'est-à-dire que, bon, sur le papier, ce serait possible, grâce à l'universalisme proverbial de notre pays. Regardez, Madame Hidalgo n'a pas fini de le chanter. Mais dans les faits, le rince-doigt demande un certain savoir-vivre. Ceci étant, notre pays est ouvert et tourné vers le progrès, et Blanquer va proposer prochainement d'intégrer les cours de homard et de fourchette à poisson en éducation civique. Et ouais, bah pour lutter contre l'islamo-gauchisme, évidemment. Et c'est sous la bannière antiraciste de CNews et RTL que la croisade a pris son élan, avec à la proue de cet assaut l'inégalable Zemmour, accompagné de tout ce que le Rassemblement National compte d'anciennes gloires, d'ex-gudards désormais encravatés, d'orateurs du moment et surtout de futurs membres, tant il est vrai que face au racisme anti-blanc, la droite de papa ne peut rester les bras croisés, la Macronie à la traîne, le PS en retard d'un train, les sénateurs PCF en retard d'un PS. Bref, chacune et chacun, car ces gens sont aussi des femmes parfois. Et on a même des nègres et des mahométans de notre côté, toutes et tous, sont heureux de pouvoir vous annoncer l'interdiction du CCIF, bientôt l'UNEF, demain des groupes anarchistes, et puis, par exemple, plus tard, des syndicats qui ne respecteraient pas nos principes. C'est vrai que cette idée consistant à exclure de ses rangs son principal partenaire social, c'est pas très mixte. Mais où va-t-on si on ne peut plus assister à une réunion de pédales ou de gonzesses, sous prétexte qu'on est un homme, un vrai, avec des couilles, deux en général, hein, sans vouloir froisser le club des monotesticulaires, hein. Où on va? C'est pas ça la France! Que les bougnoules et les nègres se réunissent avec nous, selon nos principes. Et quand il y en a deux ou trois, parce que après, c'est le bordel. Hein. Non, d'accord, on veut bien, on est même prêt à leur filer un mode d'emploi pour fabriquer un islam à la française. Eh ouais, mais sans nous? Ah, là c'est vexant! Hein, faut pas désespérer Billancourt, d'accord. Mais faudrait voir, pas avec ses neuillis. Y a des fourchettes à homards qui pourraient voler bas. Alors c'est vrai qu'à gauche, tout en tombant dans les bras ouverts du piège fasciste en marche, on se trouve des petites excuses. C'est vrai que la vieille gauche, blanchie par des années de pouvoir, de compromission, de glissement, ne tient plus que sur les piliers vermoulus du mythe universaliste bourgeois, enrobé de bons sentiments humanistes. Hein. C'est vrai que, loin de nos quartiers, complètement intégrés dans les institutions bourgeoises, les appareils dits de gauche ont autant de contact avec le peuple que ce dernier avec les homards, et qu'il est plus aisé pour cette gauche-là de demander à ce qu'on rallie son panache blanc tout là-haut, plutôt qu'elle redescende dans les bas-fonds de la vraie vie, où elle serait impitoyablement mise à poil et rejetée. Non, c'est vrai. Et cette situation, ça laisse aux opprimés toute liberté pour tenter de commencer à s'organiser à leur manière. Mais sans nous, s'exclame la gauche. Oh non, faudrait voir à pas vexer Fabien Roussel. Eh, il est en campagne. Eh, ça prend bien, hein. Sainte réunion non mixte peut, certes, laisser perplexe. Comme ce jeune catholique transgenre, c'est un exemple, hein, ce jeune catholique transgenre homophobe qui se voit refuser l'entrée d'une conférence gesticulée organisée par des musulmans antispécistes non racisés et dont le sujet portait sur l'intersectionnalité transversale des luttes horizontales qu'on pourra mener quand on aura bien réfléchi, quitte à organiser une autre réunion en vue de préparer la conférence gesticulatoire qui permettra de déterminer qui a le droit de participer aux réunions. C'est vrai, on comprend la perplexité du gars. Mais il a fini par se réunir tout seul pour régler son problème, qui n'en était finalement pas tout à fait un. Et comme nous serons prochainement tous surveillés, confinés, dissous, interdits, nous découvrirons encore d'autres manières d'actualiser cette réunion non mixte, et dans l'urgence, nous procéderons à notre tour à une épuration de classe consistant à interdire le MEDEF, le Rotary Club, le Sénat, les loges maçonniques et tous ces clubs échangistes suspects où une vieille bourgeoisie décatie mange le homard à la louche et décortique chaque grain de caviar pour tenter d'y trouver la dernière justification idéologique à sa domination morbide. Aujourd'hui, mercredi 7 avril 2021, le soleil s'est levé, ouvrant tout grand ses yeux secs sur le réveil de la capitale. Il va se coucher, mais déjà, un petit homard frais, arrivé d'Honfleur, trouve que Paris, c'est vraiment batte. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pochiche de Radio Campus et sur campusdeal.com.
Entre une tête de veau et 6 douzaines de poireaux, sur le grand carreau au haut des halles, couché dans le vin et couvrant tout grand ses yeux secs, sur le réveil de la capitale. Un petit homard frais arrivé d'Honfleur trouve que Paris c'est vraiment batte. Puis pense à sa mère et discrètement verse un pleur qui se perd dans le poil de ses pattes. Il est arrivé ce matin porte de Saint-Cloud en camion frigo par l'autoroute. À Rouen, le chauffeur a stoppé pour boire un coup à Ponto de Mer pour casser la croûte. Ils ont voyagé dans les pommiers fleuris le long de la Seine à l'eau gris pâle. Et voilà comment un petit homard ébahi se retrouve sur le carreau des hares. Restaurateur le voit, l'achète tout à coup. Il le paie caché en avant-toute. Dans sa camionnette, file vers la porte de Saint-Cloud. Il prend le tunnel de l'autoroute.
Le petit homard voit des pommiers en fleurs. Il n'ose y croire, c'est un vrai suspense.
Mais voilà soudain les premières villas d'Honfleur. Et le petit porc de son enfance.
Flap.
Sous un parasol d'un joli vert véronèse, d'une villa vie vraiment très smart, vient de se commander un petit homard mayonnaise, pris selon grosseur d'après le carte. Et voilà comment hôtel du chat perché, après avoir vu Paris trop vite. À 50 pas du lieu où il fut pêché, un petit homard dans la marmite.
Bou, 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 bou dans la marmite. Bou, bou, bou dans un fait tout.
Vous eussiez préféré dans la mer le voir sauter avant que sa chair ne soit trop cuite. Mais pourquoi vous taire la triste réalité? Le petit homard dans la marmite.
Bouhou, bouhou, il a vu Paris bien vite.
Bouhou, bouhou, à feu doux dans un fait tout.
La boue. Entre nous, sa chair est cuite.
Bouhou, 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 un point c'est tout.
C'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus, comme tous les mercredis à cette heure-ci, ou à peu près. Ce soir, on vous emmène à la rencontre de Brahim. Brahim, il est assistant d'éducation dans un collège à Roubaix. Et il est suspecté de radicalisation avec barbe, ceinture d'explosif, gel là-bas, couteau, enfin tout ça quoi. Avant ça, un petit peu de philosophie avec Georges Gastaud, auteur du livre Lumière commune, traité de philosophie et la lumière du matérialisme dialectique, paru aux éditions Delga. Mais tout de suite, le point d'actualité de notre camarade Saïd Bouamama, c'est le monde vu d'en bas. Et c'est l'heure de le mettre.
Radio Campus.
Notre spécialité, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion.
106,6.
Bonjour et bienvenue pour cette quatrième édition du Monde vu d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de ces deux dernières semaines, nous avons retenu les trois questions suivantes. D'abord, l'apparition d'un sondage sur le racisme qui éclaire sur la manière dont les dominants fabriquent l'opinion publique. Ensuite, la commémoration médiatique et politique des 10 ans de la chute de Kadhafi en Libye. Enfin, les premiers pas du gouvernement états-unien en matière de politique internationale. La publication récente des résultats d'un sondage par l'IFOP portant sur les Français et le racisme a fait l'objet de nombreuses émissions dans les grands médias. Publié début mars, ce sondage éclaire sur la manière dont les dominants tentent d'influencer ou de fabriquer l'opinion publique. Un scénario classique en 3 actes, particulièrement bien rodé, s'est de nouveau déployé. L'acte 1 consiste à obtenir les réponses souhaitées en posant des questions induisant ou influençant la personne interrogée. Dans ce sondage en particulier, il était posé les questions « Pensez-vous que certaines catégories de personnes sont trop nombreuses en France ?» Ces catégories étaient ensuite déclinées en « étrangers, maghrébins, musulmans, roms, etc. » La simple formulation de la question oriente la réponse vers l'idée d'un excès, d'une surreprésentation, d'un seuil dépassé. Sans surprise, les résultats confirment cette idée. 43% des sondés estiment ainsi qu'il y a trop de maghrébins, 45% trop de musulmans et 50% trop de roms. L'acte 2 du scénario médiatique peut alors s'enclencher en multipliant les émissions radiophoniques et télévisuelles où des pseudo-experts prétendent expliquer ces résultats en accréditant l'idée de l'existence d'une invasion quantitative réelle ayant des conséquences angoissantes sur des plans aussi divers que la sécurité, le communautarisme, le séparatisme et bien d'autres choses. L'acte 3 du scénario peut alors venir clore le processus en faisant le lien avec les choix politiques actuels que l'on tente ainsi de légitimer. Les sondages participent ainsi d'une fabrique de l'opinion publique. Cette fabrique utilise d'autres moyens tels que la mise en exergue de faits divers transformés en problèmes sociaux par la généralisation et l'occultation du contexte de ces faits, ou encore la mise en scène de plateaux d'émissions où tous les invités partagent la même lecture et ne se différencient que par la surenchère dans la définition de la réponse souhaitée. Loin d'être une réalité objective, l'opinion publique décrite par les médias dominants est une fabrication servant certains intérêts et en desservant d'autres. Les 10 ans de la chute du président libyen Muammar Kadhafi ont également fait l'objet de nombreuses émissions médiatiques. Plus largement, l'anniversaire des 10 ans des dites révolutions arabes, Égypte, Tunisie, Libye, Syrie, ne cesse de faire l'objet de mises en scène médiatiques serinant en boucle les mêmes grilles explicatives. Celles-ci peuvent se résumer comme suit. Des peuples assoiffés de démocratie se soulèvent contre des dictateurs tyranniques. Ils sont soutenus par des pays occidentaux venant au secours de peuples en danger. Et enfin, ces peuples gâchent la libération tant espérée par des guerres fratricides. À aucun moment, ces prétendues explications n'abordent la question des enjeux économiques de l'intervention des armées occidentales. Il n'est de même jamais question des conséquences humaines durables des bombardements menés par les armées de l'OTAN. Enfin, les conséquences politiques de ces interventions sont également passées sous silence. Ces silences assourdissants occultent que nous sommes en présence de guerres pour le pétrole. Ces silences cachent que ces guerres n'ont eu pour seul résultat que de détruire les infrastructures vitales pour les peuples, créant ainsi les conditions d'une balkanisation et du pouvoir de seigneurs de la guerre se partageant le butin. Ces silences masquent que ces seigneurs de la guerre sont soutenus par les grandes puissances occidentales, à l'exemple du général Haftar soutenu par Macron et Paris. La manière de raconter l'histoire participe, on le voit, des stratégies de domination du monde. Un des derniers actes de l'administration Trump a été d'inscrire Cuba sur la liste noire états-unienne des États soutenant le terrorisme. L'administration Biden, qui lui succède, déclare maintenir l'embargo contre Cuba tant que les droits de l'homme ne seraient pas respectés. Si le ton du discours se modifie, le fond de celui-ci et les objectifs politiques poursuivis restent les mêmes, à savoir justifier la violation de la souveraineté d'un peuple au prétexte de défendre les droits de l'homme. La continuité entre Trump et Biden en matière de politique étrangère se vérifie également à propos du Venezuela. Un des premiers actes du nouveau secrétaire d'État états-unien à la politique étrangère, M. Anthony Blinken, a été de recevoir le 2 mars le réactionnaire Juan Guaido ayant, rappelons-le, tenté un coup d'État soutenu par Trump. À l'image de Trump, l'administration Biden continue de qualifier Guaido de président par intérim. Dans la foulée, le 8 mars, le décret de Trump considérant, je cite, que le Venezuela constitue une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale de la politique étrangère des États-Unis est prolongé. La même continuité s'annonce d'ores et déjà à propos de la Chine, de la pseudo-lutte contre le terrorisme, du soutien à Israël et de bien d'autres questions. La politique étrangère des États-Unis ne dépend pas de la couleur démocrate ou républicaine du président, mais des intérêts des monopoles industriels, militaires et financiers du pays de l'Oncle Sam. Le savoir est une arme, et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.
Echa pa' acá que La Habana te espera. Echa pa' acá que a La Habana le gusta. Verás cómo lo disfruta La Habana entera. La Habana sigue en pie. Paulito el sofocador, arriba del cachumbambe, con todo bajo control.
pa' acá que La Habana te espera. Echa pa' acá que a La Habana le gusta. Verás cómo lo disfrutas, La Habana entera. Dicen que con mucho swing habrá una fiesta en la plaza, donde estará Manolín, el médico de la salsa. Echa pa' acá que La Habana te espera. Echa pa' acá que a La Habana le gusta. Verás cómo lo disfrutas, La Habana entera. Dicen que ese día se casa el menor de la charanga, que estará en el de la banda, el tosco David Calzado, y como si fuera poco el chévere Isa Delgado. No estoy entre los que están, pero soy de los que son. No todos son los bombán, ni Adalberto con su son. Ay, mamá. Siempre hay un lugar en el corazón del pueblo de la capital. Yo no voy a especular, escúchame, lo digo en serio, porque cuando hay que cantar, las tiro en estéreo. Echa pa' acá que La Habana te espera. Echa pa' acá que a La Habana le gusta. Verás cómo lo disfruta La Habana. Pa' la gente de La Habana
quiere guarachar contigo.
Cántale bonito, regálale una sonrisa.
La Habana quiere guarachar contigo.
Ella lo que quiere que le toquen, lo que quiere que le cante.
La Habana quiere guarachar contigo.
Así que como dice el sonero, tira pa'lante.
La Habana quiere guarachar contigo.
Venga a sofocar La Habana.
Agítala, agítala.
Venga.
Radio Campus.
Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur.
106,6.
Bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la question de savoir s'il est possible de concevoir encore des philosophies systématiques à notre époque. Autrement dit, si les notions de philosophie et de système sont toujours conciliables. Pendant longtemps, cette question n'a pas fait de mystère, puisque au XVIIe siècle, par exemple, la plupart des grandes philosophies, je pense à celle de Descartes, et surtout à celle de Spinoza ou à celle de Leibniz, se présentaient sous la forme de systèmes. Et c'est d'autant plus vrai pour le dernier nommé, pour Leibniz, dont le système philosophique a un substrat mathématique. Mais, si vous voulez, cette conception des choses a été modifiée profondément, non seulement par la critique de la raison pure de Kant, qui a radicalement critiqué les métaphysiques du XVIIe siècle, mais aussi tout simplement par le fait que, petit à petit, on s'est rendu compte que les systèmes philosophiques les plus sophistiqués ne parvenaient pas à rendre compte de l'ensemble de la réalité, que la découverte scientifique en particulier venait toujours plus ou moins troubler les systèmes existants, créer des brèches à nœuds, faire apparaître des lacunes, découvrir des continents nouveaux auxquels le fondateur du système n'avait absolument pas pensé, et par conséquent, l'idée même de système a été infirmée, invalidée, voire moquée et raillée. Bien sûr, au XIXe siècle, on a encore de grands systèmes, je pense notamment en France à celui d'Auguste Comte, et donc au système positiviste, et en Allemagne, un système qui est encore beaucoup plus élaboré, beaucoup plus riche d'un certain point de vue, qui est celui de Hegel. Hegel dont on sait le rôle extrêmement important qu'il a joué dans la construction, ou plutôt dans les préparatifs théoriques qui ont été nécessaires à l'émergence du marxisme. Mais là encore, si vous voulez, eh bien, ces grands systèmes bien clos, bien fermés sur eux-mêmes, ont montré leurs limites, et on a vu très vite effectivement que, par exemple, dans le système d'Auguste Comte, il était interdit, par exemple, de créer une astrochimie ou une astrophysique ou une psychologie, qu'il n'y avait pas de place pour ces différentes disciplines, ce qui ne les a pas empêchés d'émerger plus tard, et donc effectivement de faire éclater de ce point de vue le positivisme qu'on tient. De même que, si vous voulez, par exemple, Hegel va nous expliquer dans l'Encyclopédie des sciences philosophiques que la notion d'évolution naturelle est complètement absurde, que l'évolution et le temps, la temporalité et l'historicité véritable sont réservés à l'esprit, et donc à l'histoire au sens étroit du mot, à l'histoire des hommes. Il ne saurait y avoir d'évolution naturelle, et bien pas de chance pour Hegel, puisqu'évidemment la théorie de l'évolution, ou plutôt la science de l'évolution, a par la suite connu un essor très considérable. Si bien que d'une manière générale, on peut penser que le temps des systèmes est révolu, qu'il ne faut plus penser systématiquement. Et sont apparus, notamment à la fin du XIXe siècle, des philosophes comme Nietzsche, par exemple, un Allemand donc, qui écrivait principalement sous la forme d'aphorismes, c'est-à-dire de textes courts, incisifs, relatifs à une situation, à un moment, à une occasion donnée. Et si vous lisez le Gai Savoir, par exemple, de Nietzsche, vous allez constater qu'il est effectivement un recueil d'aphorismes, et non pas, comme par exemple la science de la logique de Hegel, un ensemble de propositions qui sont liées les unes aux autres par déduction, d'une manière purement logique. Voilà. On peut penser aussi à Kierkegaard, un Danois, pour qui le système hegélien était le contraire même de ce qu'il fallait faire en philosophie, puisque le système hegélien prétend tout réduire à la raison, alors que l'existence à laquelle s'intéresse Kierkegaard qui est un penseur mystique en réalité, que cette existence eh bien, ne saurait tenir dans des raisonnements qu'on ne saurait déduire l'existence. Donc pas de système et une certaine méfiance à l'égard de tout ce qui voudrait rationaliser l'existence. Ou on peut penser encore à l'époque moderne à quelqu'un comme Heidegger. Heidegger, qui, grand philosophe allemand, malgré ses aspects réactionnaires, qui a voulu atteindre la pensée de l'être, l'être même, l'être qui est sans pourquoi, nous dit-il dans un texte fameux, l'être et sans pourquoi, c'est-à-dire que bon, il y a de l'être. Et donc on n'a pas à tenter de mettre l'être en système. C'est une déviation de la philosophie, et la métaphysique, d'une façon générale, apparaît plutôt comme une déviation de la philosophie. Heidegger est, par exemple, nostalgique des présocratiques. Ces philosophes antérieurs, comme leur nom l'indique, à Socrate, à Platon, et donc à la grande rationalisation, voire à la grande pré-mathématisation de la philosophie. Vous savez que on n'entrait pas dans l'école de Platon si on n'était pas géomètre. C'était écrit sur le fronton de l'Académie, l'école de Platon. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Et au contraire, avant Platon, donc si vous voulez, par exemple, chez Héraclite d'Éphèse, eh bien, la philosophie s'exprimait sous la forme poétique. Et donc, ici, plutôt que d'aller vers une philosophie de type scientifique, comme celle que prenait Spinoza, qui voulait déduire sa philosophie morée géométrico, c'est-à-dire à la manière des géomètres, ou comme Leibniz, hein, qui voulait donc introduire des éléments de mathématiques dans la construction de son système, il faut plutôt une parenté, un apparentement de la philosophie et de la poésie. Alors pourquoi pas, hein, tout cela bien sûr est intéressant, mais d'une certaine façon, je pense que nous avons là affaire à quelque chose qui pourrait détruire la philosophie et, en sens asymétriquement, si l'on peut dire, priver la science, les sciences, de leur dimension philosophique, de leur dimension ontologique, de leur capacité à embrasser l'être et à en présenter un tableau, sinon achevé, il ne s'agit pas de ça, personne ne parle de ça, tout au moins cohérent. Hein, cohérent, donc dessinant certaines orientations possibles pour notre action. Et par conséquent, nous permettant de situer notre action dans ce tableau général de la nature et de l'histoire humaine. Donc l'enjeu est très important. Et la question que je voudrais poser ici est celle de savoir si l'on est obligé de choisir de manière assez catastrophique entre une philosophie systématique qui rate l'existence, qui rate l'être, qui rate l'événement, qui rate le nouveau, qui rate l'hétérogène, et une philosophie des aphorismes, une philosophie littéraire, si vous voulez, qui finalement, n'étant pas soucieuse pour l'essentiel de cohérence, de mise en cohérence, va s'éloigner du terrain scientifique, va négliger la logique, va d'une manière générale, si vous voulez, aboutir pour finir à une espèce de littérature philosophique ou de philosophie littéraire qui n'est ni littéraire ni philosophique. Je le crains. Alors, nous allons voir un petit peu ici comment on peut se sortir de cette difficulté. Et c'est une des questions que j'ai traitées notamment dans mon livre « Lumière commune, traité de philosophie générale à la lumière du matérialisme dialectique ». Alors, d'abord, voyons pourquoi, c'est la première partie de cet exposé, voyons pourquoi, d'une manière générale, les philosophies systématiques classiques, pré-critique, antérieure à Kant, si vous voulez, quelque part manquaient leur objet et ne pouvaient pas aboutir à un succès, malgré les vertus extraordinaires de ces systèmes, avec leur force logique, leur véritable côté cathédrale de concept. Hein, quand vous lisez l'éthique de Spinoza, Ethica more geometrico demonstrata, l'éthique démontrée à la manière des géomètres, si vous voulez, vous ne pouvez pas manquer d'être impressionné. De même que quand vous lisez la monadologie de Leibniz, par exemple. Mais pourquoi, effectivement, ne pouvait-elle totalement réussir? La première raison, c'est que ces systèmes sont construits a priori. La plupart du temps, donc, le philosophe va mettre en place des principes, c'est-à-dire des propositions très générales, des propositions surplombantes à partir desquelles il va déduire tout le reste de sa théorie. Un peu comme font les mathématiciens quand ils utilisent des axiomes. Il pose des axiomes, comme le tout est plus grand que la partie, des choses comme ça. Et à partir de ces axiomes, eh bien, ils déduisent, d'une part, les règles de la construction de leur théorie mathématique, et d'autre part, bien sûr, le contenu de ces théories, c'est-à-dire les théorèmes. Et donc, ces philosophes, qui étaient souvent des matheux tout à fait brillants, pensons à Descartes, hein, inventeur de la géométrie analytique, ou pensons à Leibniz, qui est le père du calcul infinitésimal, ont voulu introduire en philosophie ce mode de raisonnement, ce mode de pensée mathématique. Oui, mais c'est un peu dangereux, parce que, effectivement, si c'est tout à fait valable en mathématiques, puisque les objets mathématiques sont construits, et que le mathématicien ne vise pas comme le physicien, le chimiste, l'économiste et ainsi de suite, le réel, en tout cas pas directement. Il vise simplement à accorder les propositions entre elles les unes avec les autres, de telle façon qu'elles soient compatibles avec les axiomes initiaux. Eh bien, ça, ça marche très bien donc pour les mathématiques. Et c'est pour ça que, quand on est très brillant logicien, eh bien, on n'a pas à se soucier de savoir si ce qu'on a formulé comme théorie cadre ou pas avec le réel, mais la philosophie, elle, vise la réalité. Et par conséquent, il y a ici un danger. Et le danger, c'est l'idéalisme. L'idéalisme, c'est-à-dire l'idée que tout sort de notre esprit, de notre tête, que ces grands principes de la raison que nous tirons de notre raison, de la raison avec un R majuscule, la raison universelle, que nous tirons de notre raison personnelle, celle qui nous fait penser, eh bien, aboutit tout simplement à déduire du système ce qui a été mis subrepticement au début, c'est-à-dire en réalité l'idée que la pensée domine la matière, que la pensée est à l'origine de la nature, ce qui est une proposition non seulement idéaliste, mais même théologique, qui fondamentalement flirte avec le créationnisme, avec l'idée que Dieu, ben oui, en pensant, Dieu, de façon quasi magique, fabrique la nature, pensez au fameux « que la lumière soit et la lumière fut », n'est-ce pas? Alors, donc, en quelque sorte, l'idéalisme est ici le danger, le péril majeur qui peut sortir de ces métaphysiques. Et puis, du même coup, le dogmatisme, puisque tout ce qui sortira de ces principes, tout ce qui n'entrera pas spontanément dans ces principes, sera soit considéré comme une apparence trompeuse, qu'il faut chasser, soit considéré comme quelque chose qu'il faut véritablement réduire de telle ou telle manière pour le faire entrer de force, en quelque sorte, dans le système, un peu comme, si vous voulez, le chausse-pied qui permet de faire entrer un pied trop grand dans une chaussure, alors que c'est en réalité non pas le pied qui est trop grand, c'est-à-dire le réel, si je parle du pied, mais la chaussure qui est trop petite, c'est-à-dire la théorie qui n'englobe pas tout, qui est insuffisante.
De la pratique, sans l'intérêt dramatique et ses puissants résultats. Qui niera la simplicité rustique et le côté sympathique de l'action dans tous les cas.
Pourtant la théorie, je vous l'assure, a bien du charme. La méthode directe est moins efficace souvent. Persuader l'ennemi plutôt que de prendre les armes est un moyen très séduisant.
Qu'une propagande intense, jamais persuade en France que ceux qui le sont déjà.
Et là, évidemment, mais quand même l'action directe, quoi ?
Pauvre dégonflé, pauvre dégonflé.
Théorie, théorie.
Moi je tiens pour la pratique.
Rien ne vaut la théorie.
On verra, on verra. On verra, on verra.
Tu crois qu'on t'écoute et tu crois qu'on t'attend, mais tu restes seul tout le long de la vie. Tu crois qu'il faut faire un effort pour les gens, maintenant tu as compris. Tu crois qu'on répond à tous tes arguments, tu n'as entendu que l'écho de ta voix. Tout seul tu étais, seul tu resteras, dans cette chambre où te voilà. Et seul tu crèveras, sans personne avec toi.
À partir de là, si vous voulez, en même temps, le système va risquer tout bonnement de bloquer le développement scientifique. Puisque si certaines choses n'entrent pas dans le système, on va déclarer qu'elles n'existent pas, ou qu'elles ne sont pas dignes d'intérêt, ou qu'elles ne peuvent pas être connues. Et c'est ainsi qu'effectivement, donc, dans la théorie cartésienne, si vous voulez, qui est brillante par ailleurs, hein, parce que Descartes est un penseur magistral, eh bien voilà, le principe majeur, tout le monde le connaît, c'est le « je pense donc je suis », qui est énoncé dans une partie, dans la quatrième partie du discours de la méthode. Et à partir de là, Descartes va déduire qu'il y a deux substances, bien la substance pensée, qui est entièrement, disons, réductible à la conscience, hein, dans le « je pense donc je suis », eh bien, le « je pense » est le maître absolu de sa propre substance, si vous voulez. Je suis un « je » en tant que « je pense », et toute ma pensée s'épuise dans le « je », comme tout le « je » s'épuise dans la pensée. Donc, plus de place pour, par exemple, une pensée inconsciente. Et donc, vous verrez par la suite, donc, le freudisme sera obligé de se confronter au cartésianisme. De même que, dans le domaine de la physique, eh bien, Descartes va considérer que tout est réductible à l'étendue. La matière n'est pas autre chose que l'étendue, autrement dit, matière et espace ne font qu'un, Et du même coup, eh bien, tous les mouvements physiques sont réductibles aux mouvements mécaniques. Lesquels mouvements mécaniques sont réductibles à la géométrie, hein, et donc aux fonctions géométriques. Mais bon, on va avoir du mal ensuite à faire entrer là-dedans eh bien, les mouvements physiques, et naturels si vous voulez, mais qui ne sont pas strictement d'ordre mécanique. Plus exactement, c'est la mécanique elle-même qui va finir par éclater. Et bon, vous voyez bien que là, ce qu'on appelle aujourd'hui la mécanique quantique, par exemple, ne pourrait pas entrer dans les conceptions mécaniques, ou plutôt mécanistes, qui étaient celles de Descartes. Pas entrer totalement, en tout cas. Donc, voilà le danger à gros traits de ce qu'on pourrait appeler une pensée systématique. C'est ce que j'appellerais l'esprit de système. L'esprit de système, c'est péjoratif. C'est lorsque on ne veut connaître des choses qu'à partir de ce qu'on a soi-même fabriqué dans sa propre tête comme cadre, dont on ne veut jamais sortir, sans jamais pouvoir interroger les cadres, alors que précisément les grandes révolutions scientifiques ont fait éclater les cadres de la pensée de leur époque, et donc ont modifié non seulement les contenus, mais les démarches, les formes de pensée. Alors faut-il pour autant, disons, nous ranger à la seconde conception que j'ai évoquée tout à l'heure, celle de Nietzsche, celle de Kierkegaard, celle de Heidegger, celle, pour rester sur un terrain francophone, de Blaise Pascal? Les pensées de Pascal peut-être auraient été rédigées d'une façon systématique si Pascal avait vécu plus longtemps, mais en tout cas telles qu'elles se présentent, elles sont aphoristiques, et cette forme aphoristique ne leur nuit pas, leur va très bien quelque part. Mais bon, bien sûr, le propre des personnes que je viens de citer, notamment de Nietzsche pour l'Allemagne, de Kierkegaard pour le Danemark ou de Pascal pour la France, sont en plus de grands écrivains. Mais pour autant, est-ce qu'ils ne sortent pas du terrain de la philosophie? La philosophie, depuis Thalès, depuis les anciens, depuis même l'époque présocratique, veut donner du monde une représentation rationnelle. C'est en cela qu'elle s'est distinguée de la mythologie, et c'est en cela que petit à petit les philosophes se sont sentis obligés de sortir de la poésie, de ne plus s'exprimer sous une forme poétique comme c'était encore le cas des présocratiques comme Héraclite ou comme Parménide. Et la philosophie est devenue prosaïque, et elle s'est exprimée de la manière la plus rigoureuse qui soit, la beauté philosophique n'étant pas la beauté littéraire, même si, tant mieux si certains textes philosophiques sont aussi beaux littérairement parlant, mais la beauté littéraire philosophique, plutôt pour être encore plus complexe, ne tient pas à tel ou tel effet d'émotion, mais à un effet de vérité, qui est inséparable lui-même de la façon dont les propositions sont construites, enclenchées les unes sur les autres, à partir de définitions rigoureuses et n'admettant pas de contradictions logiques en elles-mêmes. Donc, est-ce que tout simplement, en abandonnant l'aphorisme, on n'abandonne pas la philosophie? Est-ce qu'on ne glisse pas vers la facilité aussi? Est-ce qu'on ne facilite pas aux esprits paresseux l'abandon tout simplement du terrain scientifique que tous les grands philosophes ont tout de même cultivé au fil des siècles, puisqu'il n'y en a pas un, au fond, qui n'ait été quelque part un scientifique, voire un très grand scientifique? Alors, je crois que c'est important de le voir, et puis, aussi, tout bonnement, si l'on abandonne la forme systématique totalement, on en arrive à l'idée, comme Kierkegaard, ou comme Heidegger, que, au fond, l'être, le « il y a », est finalement, donc, sans fondement, irrationnel, et que par conséquent, ben voilà, on constate qu'il y a de l'être. L'être est donné datur, comme on dit en latin, ou es gibt, comme on dit en allemand, ce qui se traduit par ça donne ceci ou ça donne cela. Et donc à partir de là, on renonce à l'idéal philosophique qui est résumé par la belle formule de Hegel, à savoir que le réel est rationnel et que le rationnel est réel. Et du coup, eh bien voilà, la philosophie se découple de la science, se dissocie de la science, tandis qu'en sens inverse, la science, et c'est encore plus grave, cesse d'avoir une portée philosophique. La science va nous doter de techniques. Si on étudie bien la science, on va trouver quelles sont les lois à utiliser pour fabriquer des fusées ou des vaccins, très bien, mais on ne va pas, à travers la science, comprendre ce qu'est l'être, comment il fonctionne, et on va renoncer à la fonction ontologique de la science. On va décréter, comme Heidegger, que la véritable ontologie est à l'extérieur de la science. Que la science est purement, comme il dit, ontique, c'est-à-dire elle s'intéresse seulement aux enchaînements des choses et non pas à leur être même. Bon, je crois qu'il faut sortir de cela. Parce que si on n'en sort pas, en réalité, on va tout de même abandonner la systématicité à des formes irrationnelles de pensée. Le besoin de système, le besoin de pensée cohérente ne va pas disparaître parce qu'on a décidé qu'il n'avait plus d'intérêt. Et tout simplement, ce sont les grandes religions qui, comme à notre époque, alors que pourtant les sciences foisonnent et prolifèrent, qui vont occuper le terrain idéologique et qui vont proposer des conceptions du monde cohérentes, capables de donner sens à la vie des gens, à la vie de milliards de personnes avec des effets politiques et idéologiques, culturels, extrêmement importants. Si on ne veut pas abandonner le terrain à l'irrationalisme, et si on ne veut pas, sous prétexte de refuser les systèmes rationalistes, abandonner le terrain au système irrationaliste, ou à l'irrationalisme de système, disons-le comme ça, il faut évidemment renoncer à toute idée de système. Alors j'en viens à ma troisième partie, la plus importante naturellement. Quelle façon d'aborder le système ? Quelle façon matérialiste, et si possible même marxiste, d'aborder cette question du système ? Prenons d'abord conscience que Engels n'était pas du tout naïf, comme c'est dit souvent par des imbéciles philosophiques en réalité, qui sont très au-dessous d'Engels, mais qui lui donnent des leçons. Engels était tout à fait conscient de la chose, puisque dans la dialectique de la nature, il écrit que la systématique, ce qu'il appelle dit systématique, le fait d'écrire de la philosophie sous forme systématique, est impossible après Hegel. Hegel est le dernier philosophe systématique, dit-il quelque part. Donc il est très conscient de tout ça, il n'est pas pré-critique, il est post-critique. Engels comme Marx, ils ont écrit tous les deux, quand ils étaient jeunes, un texte, La Sainte Famille, dont le sous-titre était « Critique de la critique critique ». C'est vous dire qu'on ne les prendra pas sur ce terrain du pré-criticisme, de la naïveté, du réalisme naïf et autres sornettes. Mais Engels, effectivement, se rend compte que désormais, il faut repérer les enchaînements réels qui existent dans l'ordre des choses, dans l'ordo essendi, en latin on dirait comme ça, l'ordre même de production du réel, et il faut les repérer, non pas à partir d'un a priori que l'on aurait sorti de son esprit comme un prestidigitateur sort un petit lapin blanc d'un chapeau haute forme, mais qu'il faut au contraire repérer, détecter, dégager les grandes cohérences qui existent dans la réalité. Alors ces grandes cohérences, évidemment, les sciences s'en occupent d'une façon extrêmement directe. Si vous voulez, les physiciens constatent que les lois de la physique qu'ils ont découvertes, même dans la physique classique, sans parler de la physique moderne, si vous voulez, sont cohérentes entre elles, bien évidemment. La nature forme un tout, elle forme une totalité. Alors, ce n'est peut-être pas un tout ou une totalité plate, homogène. Nous allons voir qu'elle est faillie, qu'elle est stratifiée. Mais elle forme tout de même un tout, sinon nous ne serions pas dans le même univers. Et si vous voulez, s'il y avait plusieurs légalités physiques qui se concurrencent au sein d'un même univers, on ne voit pas du tout comment cet univers pourrait tout simplement subsister, sans parler d'être compris par le scientifique. Et donc il faut repérer ces cohérences, qui sont des cohérences matérielles, objectives. Et ensuite ces cohérences, il faut les mettre elles-mêmes en cohérence les unes avec les autres. Car Engels, à son époque, au XIXe siècle, remarque bien que, si vous voulez, il existe des strates donc scientifiques et donc du même coup ontologiques, relatives au réel, relatives à l'être, c'est ça que veut dire le mot ontologique, tout au moins dans l'usage que j'en fais ici. Et donc, il y a des sciences physiques, et ces sciences physiques énoncent des lois physiques. De même qu'il existe des sciences chimiques, les sciences chimiques ont leur propre autonomie, si l'on peut dire, bien qu'elles s'enchassent, en quelque sorte, qu'elles s'emboîtent dans les sciences physiques, de même que les sciences biologiques ont leur propre mode de fonctionnement, par exemple, la sélection naturelle ou la génétique, ça c'est postérieur à Engels, la génétique mendélienne, et donc, bien que la biologie s'enchasse dans la chimie, s'il n'y avait pas de chimie, de processus chimique, il n'y aurait pas de processus biologique, s'il n'y avait pas de processus physique, il n'y aurait pas de processus chimique. Mais ces enchâssements ne sont pas pour autant des réductions. Ça ne veut pas dire que le niveau de complexité supérieure, par exemple biologique, soit rabattu sur le niveau inférieur, c'est-à-dire chimique, qui serait lui-même rabattu sur le niveau physique. Chacun de ces niveaux, si vous voulez, a en quelque sorte son propre champ de compétences. Et de même, l'étude qu'en fait le scientifique, le physicien, le chimiste, le biologiste, et par la suite, effectivement, le sociologue ou l'économiste, par exemple, ou l'historien, si vous voulez. Donc, ça sera ça. L'une des tâches de la philosophie, ça sera de penser précisément comment ces différents niveaux s'enchassent les uns dans ou avec les autres ou sur les autres. Et donc de penser les choses dynamiquement. C'est là toute la différence, évidemment, avec les métaphysiques classiques qui, elles, les pensaient d'une façon statique, juxtaposée ou homogène en ravalant tout à quelques principes qui surplombaient l'ensemble. Le propre de la nature, c'est précisément qu'à travers ces contradictions dynamiques, et ça c'est l'aspect central de la dialectique de la nature engelsienne, à travers leurs contradictions dynamiques, eh bien, les processus qui existent concrètement, qui existent matériellement, vont donner lieu à des phases critiques, les phases critiques dans lesquelles apparaissent effectivement d'autres fonctionnements possibles, qui eux-mêmes vont donner lieu à une nouvelle strate du réel qui va, etc., produire la même chose ou des choses analogues à un niveau supérieur. Ces moments décisifs, ces nœuds en quelque sorte, qui sont à la fois des nœuds du réel et des nœuds du savoir, ce sont ce que Engels appelle des sauts qualitatifs, c'est-à-dire des moments où effectivement eh bien, le réel qui existait jusqu'alors va se mettre à fonctionner d'une façon autre. Si vous voulez, vous n'avez qu'à prendre ce grand récit scientifique, je mets grand récit entre guillemets parce que beaucoup de gens se moquent de cette idée comme si elle était totalement périmée, alors que la science actuelle est en train de nous doter d'un grand récit scientifique de plus en plus complet, d'une cosmogonie de précision même, pour parler comme l'astronome et cosmologiste Luminé. Et effectivement, on sait bien que par exemple, à une certaine période, eh bien, l'univers post-Big Bang est tellement chaud qu'il n'existe qu'une soupe de particules, que même les particules ne sont peut-être pas encore identifiées, identifiables. Elles s'identifient, puis l'univers se dilate et se refroidit, et puis apparaissent les premiers noyaux d'atomes, et puis apparaissent, donc là, c'est l'espace de la physique nucléaire, alors qu'avant il y avait qu'une compétence pour étudier l'univers de cette seule et même chose que sont à ce moment-là la cosmologie et la physique des particules, et puis ensuite, eh bien, les noyaux d'atomes, dans une phase ultérieure de l'univers qui se refroidit, qui se dilate, captent les électrons et forment des atomes, puis dans d'autres conditions données, qui passent aussi par ces forges de la nature que sont les étoiles, vont se mettre en place effectivement les molécules de plus en plus lourdes, tout le tableau de Mendeleïev, qui n'est pas une pure création de l'esprit de Mendeleïev, mais qui correspond à la nature des choses, et même à une certaine nature évolutive des choses, pas simplement à un tableau statique, mais bel et bien à une dynamique, des éléments le plus simples comme l'hydrogène ou au plus lourd comme le fer, les éléments radioactifs, etc. Et donc effectivement, tout cela donnant lieu à ce qu'on appelle ensuite pour la physique atomique, puis la chimie, et ainsi de suite la biologie avec ce que vont donner les macromolécules au bout d'un certain moment, et ainsi de suite. À ce moment-là, on est bel et bien dans quelque chose qui s'appelle une pensée systématique. Plus exactement, je dirais une pensée systémique. Le réel fait bel et bien système. Mais remarquez-le, il fait système d'une manière évolutive, d'une manière dynamique, et non pas d'une façon statique. Et la systématicité qui peut résulter de cela n'est pas de même nature que celle qui, avec les grandes métaphysiques traditionnelles, pouvait bloquer le savoir. Dans les métaphysiques traditionnelles, eh bien, au fond, on donnait une représentation du réel qui était en quelque sorte ficelée. Je caricature un peu parce que, si on regarde de près le système de Leibniz, c'est une merveille, par exemple. Il y a une place pour la dynamique en lui, bien sûr. Mais, en gros, quand même, les trous du savoir étaient en quelque sorte obturés. Alors qu'au contraire, ce qui est intéressant avec le tableau scientifique que je suis en train de décrire, c'est que l'on décrit les grandes allées du savoir, le grand mouvement du savoir, et du même coup, qu'on voit d'autant mieux apparaître les points sur lesquels ce savoir est incomplet, lacunaire, et qu'il faut par conséquent explorer. Bref, c'est le contraire du « je sais tout », c'est plutôt le « je constate », en constatant que je sais ceci, que je ne sais pas cela, et que c'est par conséquent là qu'il faut chercher. Donc on est beaucoup plus dans l'esprit socratique, non pas pré-socratique ni post-socratique, mais socratique tout simplement, de la docte ignorance, du « je sais que je ne sais pas » et du coup « je cherche ». Voilà, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, une vidéo, ça doit, m'a-t-on dit, suffisamment être relativement bref, donc lisez quand même, parce que ici je ne peux pas véritablement être démonstratif, lisez donc dans Lumière commune, notamment le tome 1 qui traite de ces questions et qui aborde la question de savoir si la philosophie peut être systématique. J'espère vous avoir, non pas montré ou démontré, mais suggéré qu'elle doit l'être, bien que ce ne soit pas à la manière du XVIIe siècle, d'une façon pré-critique, mais d'une manière post-critique, qui intègre notamment le mode de pensée dialectique, critique de la pensée métaphysique, qui intègre la dynamique et qui intègre effectivement donc la dimension de la contradiction et des sauts qualitatifs de l'existence dans le réel non seulement de l'homogène, mais de l'hétérogène, les deux étant eux-mêmes dialectiquement liés.
C'est quand même pas mal la politique, hein.
Ah, c'est pas inintéressant, hein.
Ah oui.
106,6.
Bien, c'est l'heure de le mettre sur Radio Campus et nous sommes avec l'une des figures locales du radicalisme islamiste. Une figure locale du radicalisme islamiste qui est aussi l'un des symboles les plus importants de l'islamo-gauchisme dans ce pays. Éric Zemmour ne nous contredira pas sur cette question. Brahim, bonjour.
Salam alaikum, bande de mécréants.
Voilà, bien évidemment. Et voilà, tout est dit, déjà. Alors, tu es suspecté, on déconne pas alors, hein, on est sérieux, tu es suspecté de radicalisation.
Ouais, voilà. Enfin, suspecté encore, je sais pas.
Ouais, enfin, en tout cas, raconte-nous l'histoire. Que s'est-il passé?
En fait, j'ai eu un.
Tu étais dans un rayon communautaire à Auchan, peut-être, au départ.
Ouais, voilà, à l'al.
Ah oui, voilà.
Non, donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une conversation avec un prof sur le sujet d'un devoir. Enfin, je suis AED dans un collège.
Ça vient plus au moins, hein, c'est ça.
Voilà, ouais. Exactement. Et donc j'avais un élève qui était en permanence, et un prof est venu avec un devoir qui m'intéressait. Qui est sur l'esclavagisme, le code noir et tout ça, quoi. Une cause qui m'est particulièrement sensible. Voilà, quoi.
Comme tous les djihadistes.
Comme tous les djihadistes, quoi. Comme les djihadistes. Comme tous les moudjahidines.
Bref, il vient, il apporte son devoir.
Il apporte son devoir et donc, voilà, il expose son devoir. Et à un moment, dans une phrase qu'il énonce, j'étais pas d'accord avec un mot. Donc là, tout bêtement, je lui fais part de mon désaccord. Donc on a une discussion plutôt intelligente. Enfin, intelligente de sa part. Pas de ma part, parce que moi, je suis un mot.
Ah oui, c'est vrai, oui, pardon, oui.
Donc voilà, quoi. Donc voilà, on a une discussion et tout ça. Donc moi, je lui ramène toute ma culture couscoussière, tu vois.
Ouais.
Que j'ai. donc voilà, quoi.
Et devant l'élève.
Devant l'élève. Ouais. Devant l'élève. Mais sans réellement.
Il n'y avait pas de. C'est juste une discussion, sur un point d'histoire.
Quoi. Non, il n'y avait pas d'histoire. J'avais pas ma grenade avec moi, en fait. Ouais. J'avais pas ma ceinture d'explosifs.
Ouais.
Et donc, du coup, ce jour-là, je l'avais oublié.
Ah oui, bah oui, oui. Attends, fais gaffe, il y a tes poils de barbe qui vont dans mon micro, là. Attends, on va les
enlever. C'est bon.
C'est bon, ça va.
Avec le masque et la barbe, c'est pas évident. Et donc, du coup, donc j'ai exprimé un certain désaccord, mais on a eu une discussion plutôt intelligente.
Oui.
J'ai appris des choses. Je pense qu'il a appris des choses. Voilà. Et donc, du coup, j'en avais fait part sur les réseaux sociaux, sans nommer le professeur,
oui.
Sans nommer le collège. Sans prôner la charia pour une fois.
Oui, pour une fois.
Pour une fois. Alhamdoulilah. Donc voilà. Donc, et du coup, un soir de. Un jour après, je reçois un appel par la CPE du collège qui me demande d'effacer immédiatement mon poste. Un poste que j'ai fait part de ce qui s'est passé entre le prof et moi.
Oui,
sachant que de l'après-midi même, en fait, il m'avait rattrapé le prof et m'avait crié dessus, en fait. Donc, ouais, bien sûr. Et donc, là, j'ai mis de côté mon côté djihadiste.
Ouais.
J'ai...
Ton côté un petit peu merguez harissa.
Merguez harissa, tu vois.
Ouais.
Et donc, je m'étais excusé parce que c'est vrai que j'avais parlé devant un élève. Mais ouais. Bon, pour moi, il n'y avait pas.
Oui, c'était pas agressif.
C'était pas agressif ni rien. C'était plutôt un échange plutôt intéressant. Et donc, du coup, comme je disais, donc, la CPE me demande d'effacer mon poste sur les réseaux sociaux. Donc, j'efface mon poste. Et le lendemain. Convocation, bureau, principal et tout ça et tout. Voilà, pyjama, orange, Guantanamo, tout ça et tout. et donc j'arrive, donc ils me font part de leur désaccord sur mon.
Il faut aussi rappeler qu'on est peu de temps après la mort de Samuel Paty.
Bien
hein,
sûr,
donc,
bien sûr.
Dans on sent, j'imagine, une institution un petit peu.
Ouais, exactement.
Un peu.
Un peu, ouais, voilà, anti-islamo-gauchiste.
Oui.
Un petit peu en.
En système autodéfense, on va dire.
Système autodéfense, ouais, c'est exactement.
Un peu méfiance aussi.
Un peu méfiant. Et donc j'ai eu un super beau accueil, donc accueilli comme si que j'avais prôné le djihad, j'étais un terroriste. Ils m'ont rappelé Samuel Paty, je voyais pas le rapport d'ailleurs. donc c'était un peu bizarre et tout ça et tout. Et donc du coup ils m'ont fait part que j'étais mis à pied jusqu'à. Alors bonjour. Donc j'étais mis à pied. J'ai dit bonjour, salam alaikum. que j'étais mis à pied jusqu'à nouvel ordre et tout.
Il y avait des commentaires en dessous de cette.
Il y avait des commentaires.
Il y avait des commentaires. Je les ai vus. Hein,
ouais, il y avait des commentaires dont.
J'ai même participé donc.
Ouais, voilà.
un peu amusé, avec l'humour de l'ironie.
L'humour de l'ironie, mais sachant que les commentaires en fait correspondent à beaucoup d'états d'humeur qui sont passés avant. Sur mes publications, sur beaucoup de choses, on est dans un contexte de Samuel Paty où une population se sent stigmatisée. Par certains faits d'actualité tout ça et tout. Et donc il y avait certains commentaires qui ont pas plu aussi à la direction du collège et qui l'ont interprété à leur manière. Ça il faut le dire aussi parce que voilà, quand on change complètement des mots, des phrases, ça n'a plus le même sens. Et donc du coup j'ai été mis à pied et donc j'ai reçu un recommandé comme quoi j'ai été convoqué au bureau que j'avais le droit d'être accompagné. Donc j'étais accompagné par un camarade de lutte, une figure locale aussi.
De la CGT, si
de la CGT.
Ah ouais, parce que ouais, c'est ça l'islamo-gauchisme, c'est qu'en plus tu es un adhérent de longue date de la CGT.
De la CGT, bien sûr. Ouais. Donc l'un des créateurs de l'islamo-gauchisme française, dont j'en suis fier. donc voilà quoi. Donc du coup, nous sommes partis au rendez-vous.
Mm-hmm. Et là, avec qui en face?
Alors en face, on avait la CPE du collège qui m'avait téléphoné. Mm-hmm. Il y avait la principale et une dame de l'académie, une inspectrice.
Ah ouais, là on était.
Ouais, voilà quoi. Là, donc ouais. On était le plus quoi, tu vois. voilà quoi, c'était Guantanamo bientôt là.
Quelle a été ta ligne de défense?
Bah, la ligne de défense, c'était prôner la liberté d'expression, mm-hmm. déjà. Que je n'ai pas nommé le professeur déjà, mm-hmm. ni le collège, mm-hmm. que c'était un fait qui m'arrivait dans une journée que je voulais discuter avec mes amis. Mm-hmm. C'était un libre-échange entre mes camarades et moi. Mm-hmm. Donc voilà, donc eux ils ont prôné un droit de réserve. Mm-hmm. Pardon. Un droit de réserve
comme agent de l'État, machin, tout ça. Ouais. Tout ça
donc on ne sait même pas si c'est vraiment applicable pour quelqu'un qui est à mon poste, mm-hmm. plutôt pour des personnes qui sont plus...
Oui, parce que c'est un poste précaire, il faut le rappeler quand même.
C'est précaire, bien sûr. Hein, on nous remplace facilement. Hein,
ouais.
On vire un djihadiste, on ramène un autre djihadiste.
Oui, c'est ça. Voilà. Bah oui. Et puis, ils sont nombreux en même temps.
Ils sont nombreux. En même temps, c'est à Roubaix, hein, bien sûr.
Oui. Ah bah oui.
C'est le collège
bah,
Madame de Sévigné à Roubaix.
Ah oui.
Foyer
oui.
du djihadisme. À chaque coin de rue où il y a la charia, les lapidations de femmes et tout. Ouais. Déjà, d'ailleurs... avec
salade tomate oignon aussi.
Exactement. D'ailleurs, avec le confinement, on est un peu embêté. Rigole pas, après tu vas voir, toi. On va te lapider. J'étais vacciné avant. Et donc du coup donc là on est tombé face
Ligne de défense, je disais ouais j'ai cru savoir que tu avais avec ce camarade de la CGT avais mis en exergue au-delà de la liberté d'expression ton algérianité, les valeurs que tu portais, c'est-à-dire que tu peux en dire plus parce que quand tu me l'as raconté hors micro j'ai trouvé ça amusant.
D'accord.
J'imaginais une inspectrice d'académie avec une principale ou je sais pas quoi, une CPE, j'imaginais leur tête quand tu leur as parlé donc de tes valeurs à toi, quelles sont-elles?
Alors mes valeurs, donc moi je suis descendant et fils de révolutionnaire déjà, résistant algérien dont j'ai deux oncles qui sont dans les livres d'histoire en Algérie, qui ont participé pleinement à la révolution algérienne. Mon père a été torturé, il avait 10 ans. Donc voilà. Donc nous, on est une famille très militante, mm-hmm. Que ce soit mes frères et sœurs ou mes oncles qui sont en Algérie. La décennie noire, on l'a très bien connue.
En Algérie, hein.
En Algérie, on l'a connue parce que nous, on partait en Algérie malgré la décennie noire. Mm-hmm. On l'a combattue nous-mêmes.
T'as combattu les intégristes.
Les intégristes, ouais. On l'a combattu.
C'était trop mou, en fait. Trop modéré.
Ouais, bah, quand même. C'est pas le même genre de djihadisme. Avant, c'était le djihadisme, tu vois.
Ouais, à l'ancienne, c'était.
À l'ancienne, un peu Platini, tu vois. Nous, c'est djihadisme Zinedine Zidane, tu vois.
C'est ça, ouais. Non, mais voilà, non, très sérieusement.
Très sérieusement, en fait, moi, j'ai eu mes cousins qui se sont fait égorger en 95, le 21 septembre. Donc, les cinq se sont fait décapiter par les intégristes pendant la décennie noire. Décapité dans le village devant tout le monde, mmh. dont mon cousin était policier, était recherché vraiment par les intégristes. Et donc ce qui nous est arrivé en 97, c'est qu'on a été bloqué en Algérie. Enfin, on n'a pas été bloqué, on a eu des problèmes administratifs pour le retour. Mmh. Donc on est resté un peu plus longtemps, on est arrivé pour la rentrée scolaire un peu en retard. Ma mère a failli perdre son emploi cette année-là d'ailleurs. Mmh. Et donc le village a été menacé. Mmh. C'est arrivé un soir et tout ça, donc sachant qu'on habite près de la caserne militaire, la seconde plus grande caserne militaire d'Algérie. Mmh. On est parti voir les militaires qui ne voulaient pas se déplacer ce soir-là. Mmh. Donc nous, ce qu'on s'est retrouvé, ben, nous les habitants du village...
T'avais quel âge ?
J'avais 14 ans, c'était en 97. Mmh. Et donc on s'est retrouvé à surveiller, quoi, à voir si les terroristes allaient vraiment venir. Ils nous menaçaient de venir à plus de 300. Quoi. Mmh. Donc on était là et tout. Et donc moi, on m'a glissé un fusil entre les mains. Mmh. On m'a dit, tu surveilles, tu sais tirer au fusil. Ton papa t'a appris quand t'es parti à la chasse avec lui. Mmh. Donc tu restes sur le toit avec tes cousins et tu surveilles. Mmh. Donc tu t'imagines, 14 ans, le traumatisme quand tu reviens en France... Mmh. Voilà quoi. C'est à partir de là que j'ai commencé à déconner un peu djihadiste et tout ça.
T'as raconté tout ça?
Oui, on a raconté tout ça, on en a parlé quoi.
Alors devant cette inspectrice d'académie, machin.
Je racontais que j'ai rencontré monsieur Macron en 2017. On a parlé justement des sorts des djihadistes parce qu'on aimerait bien que ce soit jugé en France, écouté et emprisonné en France parce qu'on aimerait bien faire un travail sociologique dessus, savoir ce qui s'est passé, quel est l'élément moteur qui a fait qu'ils sont partis pour
parce que tu fais aussi t'as une fibre éducative, c'est pas pour rien que tu te retrouves plus
exactement
en fait, dans le quartier machin tout ça.
Moi j'habite dans le quartier d'ailleurs où est le collège, le quartier de l'Épeul. Je suis membre du comité de quartier, j'appartiens au fil de l'Épeul, une grande association, donc on a fait des actions qui nous a valu des labels spécifiques dans toute la France, dont le label Bleu Blanc Zèbre, on est une association d'intérêt général. Donc voilà, quoi, en preuve de laïcité, je crois qu'il n'y a pas mieux. Enfin, quoi que c'est une couverture pour moi.
Tu vois. Oui, bien sûr. La taquilla, la fameuse taquilla.
Ouais, voilà, c'est la taquilla.
C'est aussi, quand tu fais du rap aussi, c'est...
Exactement, je suis rappeur djihadiste aussi, ouais. J'ai oublié aussi. Et donc, on a exprimé un peu tout ça, mon militantisme.
Qui expliquait finalement ta discussion avec le prof d'histoire.
Exactement, tout simplement.
Ouais.
Tout simplement, moi, je suis désolé, étant fils de révolutionnaire, descendant de révolutionnaire, dont mon grand-père a aussi fait... dont mon grand-père aussi a fait la Seconde Guerre mondiale, faut le dire aussi. Quoi. Il est tirailleur. Donc, en tant qu'enfant de révolutionnaire, je suis très sensible pour l'histoire de la révolution algérienne. Donc moi, je me devais de connaître le code de l'indigénat, pour pleinement connaître les conditions de vie qu'avaient les occupés, par les occupants.
Ta famille ?
La famille.
Voilà, c'est ça l'histoire, voilà. ça commence comme ça.
Mais pour bien connaître pleinement le code de l'indigénat, il faut connaître aussi le code noir et son histoire. Donc je me suis mis à étudier le code noir avec le décret Colbert de 1685. Toutes les dérives, quand ça a commencé, quand ça a terminé. La mise en place du code noir par le capitalisme, c'est une réalité.
On entend bien le mécanicien auto qui parle là.
Exactement.
Parce que je rappelle que c'est ta formation quand même de base.
Exactement. Dit, mais... En fait, ce qui a gêné aussi le prof, c'est que j'ai une formation mécanicien auto et carrosserie que je connaissais parfaitement, mieux que lui le code noir déjà. Donc ça l'a un peu titillé.
À la limite, il t'aurait demandé de remplacer une durite, il t'aurait fait confiance. Mais...
Exactement, ouais, c'est ça. Ou peut-être poser une bombe, je sais pas. Je sais pas, ou faire un frit merguez, salade tomate oignon. Et donc ça l'a un peu gêné que un ouvreur de porte, parce que nous les AED on est deux ouvreurs de porte, on doit fermer nos bouches quoi, ça l'a un peu titillé que je connaisse le sujet, j'avais cette impression là.
Donc, en fait t'as été mis à pied à quelle date à peu près?
Alors fin novembre, je sais plus exactement, le 28 je pense,
et jusqu'à ce jour là on est le 1er avril. C'est même pas une blague,
c'est pas une blague,
voilà. c'est toujours mis à pied, il s'est passé des choses entre temps,
il s'est passé donc il y a deux semaines, on a eu une commission paritaire à l'académie. Donc c'est une commission où il y a des représentants de l'académie, des représentants du personnel qui débattent sur mon sujet. Donc j'ai été défendre mon dossier avec un camarade de lutte de la CGT. Donc on n'a pas eu le droit de parler du devoir. La personne qui conduisait la CCP ne voulait pas qu'on parle.
On parlait que de la publication Facebook.
Que la publication Facebook. Le devoir, il ne voulait même pas entendre parler. Donc on est tombé face à une personne très véhémente, très franchement, qui a crié dès le début. Donc moi j'ai gardé mon calme.
Qui est un peu radicalisé.
Un peu radicalisé, mais dans l'autre sens.
Oui.
Pas dans le même sens, parce qu'il y a plusieurs sens de radicalisation.
Oui, là c'est le sens du vent. Hein,
c'est le sens, ouais, voilà.
C'est le sens de Zemmour, machin, tout ça, c'est News.
Ouais, voilà, tu vois, c'est radicalisé, mais chouïa, tu vois.
Non, radicalisé bien.
Radicalisé classe.
Tu vois.
Avec la cravate. Moi, c'est radicalisé avec la djellaba, tu vois.
Ouais.
C'est mieux avec la djellaba, parce qu'en dessous, tu peux cacher des choses.
Ouais, c'est mieux d'un point de vue pratique, mais si tu veux, on est en France, je veux dire, on est dans un pays où tu peux être radicalisé, mais là, avec la cravate.
C'est mieux avec la djellaba, parce que tu peux cacher les bombes, les sabres, les couteaux.
Ouais, mais nous, on n'est pas comme ça. Brahim, on n'est pas comme ça. C'est ça, le truc. Tu vois, c'est... Bon, vas-y. Alors, donc, cette réunion, elle donne rien, j'imagine.
Elle a donné, à la fin, ils ont...
Je sais pas, c'est une procédure, voilà.
C'est une procédure, donc à la fin, ils ont décidé entre eux, tu vois.
Ouais.
Entre eux. Et finalement, j'ai eu rendu aujourd'hui.
Ouais.
Et donc, bon, ils m'ont licencié.
Ah, ils t'ont licencié.
Ils m'ont licencié, oui.
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'avant d'être licencié, t'as aussi eu la visite d'une autre institution.
Exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la principale a eu l'intelligence. Bien évidemment, bon, c'est normal de sa part. Hein,
attends, je fais une petite parenthèse. C'est normal d'aller chercher sur la page Facebook de ses salariés comme ça?
Normalement, non, on n'a pas eu de.
Ouais, c'est bizarre.
On n'a pas eu, comment dire ça, de règlement qui nous interdisait de publier sur Facebook.
Ouais.
Puis voilà, on nous a pas dit qu'on allait être espionné sur Facebook d'ailleurs.
Mm-hmm.
Donc voilà, sachant qu'ils ont pris des publications qui n'ont rien à voir avec, avec cette fameuse histoire.
Mm-hmm. Ah oui, ils ont construit un dossier.
Ils ont construit un dossier, ils ont pris ma photo de profil. Ils ont mis des dossiers, par exemple, de Sadri Kiari, qui est un écrivain,
ouais.
qui est caricaturiste. Mm-hmm. Ils ont pris aussi des publications que j'ai partagées de lui,
mm-hmm.
Des échanges avec des amis.
Ah, donc il y avait un faisceau d'indices, là.
Exactement.
Ils ont construit... Et donc, ça a mené à une...
Un signalement de radicalisation, pour radicalisation.
Elle, comment tu sais ça
caché. Elle a mis dans son dossier, il était écrit dans le jour où je suis passé à la commission paritaire. Donc elle a dit qu'elle allait faire un...
Et alors ça s'est matérialisé comment?
Ça s'est matérialisé comment? Ben, sachant qu'il y a des critères pour reconnaître des personnes qui sont radicalisées, il y a une plaquette qui est sortie par le gouvernement, quoi. Où ils basent sur 120 signes. Il y a 120 signes, pardon, qui font déterminer si une personne est radicalisée.
Mmh.
Donc déjà, il n'y a aucun signe qui vient de ma part, donc je ne sais pas c'est quel signe.
Ouais.
Je ne sais pas, peut-être trop manger de merguez. Ah non, je suis végétarien.
Ah ouais, en plus,
je suis salafiste végétarien. Mais... Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le jour déjà de la commission paritaire, on a sorti cette fameuse plaquette où il y aurait 120 signes précurseurs de personnes qui se radicalisent. Et donc, on me reconnaissait, mais vraiment dans aucun des signes déjà.
Mm-hmm.
Donc, trop marrant. Donc, on ne sait pas sur quels critères elle a fait ce signalement.
Mm-hmm.
Donc, ce signalement a été fait. Donc, un jour, je faisais du bénévolat et tout. Je reçois un appel masqué. Donc, je ne réponds pas au départ. Deuxième, je ne réponds pas. Troisième, la personne a l'intelligence de laisser un message.
Mm-hmm.
Donc, le message, c'était...
Le message, c'était... Ouais.
Alors, le message...
Ah, bah, tu l'as
ah, bah, oui, je l'ai.
Ah, bah, vas-y, on va le passer.
Allez, je l'ai. Alors attends, j'espère qu'il me l'a laissé.
Ah ben. Ou tu sais me l'envoyer peut-être?
Peut-être possible, je sais pas.
Bah, attends, sinon on le passe maintenant.
Ah, je l'ai pas.
Tu l'as pas?
Attends. Non, je l'ai pas effacé.
Tu l'as pas?
Ah, c'est bizarre.
Vous la voulez? Je la donne.
Non.
Non,
c'est bizarre.
Elle pourra jamais
effacer.
Non, mais ils effacent eux-mêmes, ouais.
Voilà, donc,
t'avais un message qui te disait.
Donc, j'ai un message d'un monsieur qui me dit renseignement de la sécurité territoriale.
Mm-hmm.
J'aimerais Monsieur Douaoud Ibrahim, c'est le renseignement de la sécurité territoriale. J'aimerais vous poser des questions. Est-ce que vous pouvez ma place, numéro là et tout, nanana. Donc là, j'écoute le message. Là, je me pose quand même des questions. Je me dis, c'est quoi ça? Je savais que c'était en rapport avec cette histoire,
mm-hmm.
tu vois. Mais je me suis dit, bon, quand même, tu vois. tu vois, c'est un peu bizarre. Et donc, j'attendais de terminer ma journée de jardinage chez une personne pour les appeler. Ils m'ont appelé quand même en après-midi, ils m'ont rappelé. Là, j'ai décroché parce que je savais que c'était eux. Et donc, le monsieur m'a appelé. C'était une personne super agréable au téléphone. Je le cache pas, il fait partie de la police, quoi. Et qui me disait qu'il aimerait me rencontrer par rapport à l'histoire au collège Madame de Sévigné. Il voulait venir sur le lieu où je faisais du bénévolat. Je lui ai dit qu'il pouvait venir à 15h.
Mais en enlevant ses chaussures.
En enlevant ses chaussures, attention.
Ouais, parce que
non,
c'est,
ouais.
C'est, ouais.
Ouais,
vas-y.
Ouais, voilà. Et même après, il faut qu'il fasse son baptême, tout ça. Et tout, parce que, moi, les mécréants, tu sais, je m'en méfie.
Oui, hein. Je sais.
Ouais, tu vois. Ouais. Et voilà. Et donc, du coup, je l'ai invité à venir sur le lieu où je faisais du bénévolat. Il m'a demandé s'il y avait un bureau. Je lui ai dit non. Il me dit, ah, tu connais pas un endroit discret. Je lui ai dit, écoute, je finis à 15h, on se rejoint
ah,
chez
vous
moi.
Ah, vous tutoyez déjà.
On se dit, ouais, mais on se tutoyait, toi.
Ouais. Hein.
C'est devenu mon sable, tu vois.
Ouais. Ouais.
Et un mec de la tête, c'est tout. Un diado.
Policier.
Non, un diado cité, de la cité de Roubaix, tu vois.
Ouais.
Et donc, du coup, je lui donne rendez-vous à 15h chez moi, à 15h15, le temps que j'arrive.
Mm-hmm.
Et donc, j'arrive chez moi, donc j'étais en bleu de travail avec plein de terre et tout. Et il est arrivé 2 minutes après. Et j'avais pas le temps de cacher mes Corans, tout ça, tu vois.
Ouais. Ouais.
Tu vois les têtes que j'ai décapitées, tout ça,
ouais.
j'ai pas eu le temps, donc il est rentré,
ouais.
Donc il s'est assis, il était avec un de ses collègues. Moi, il y avait mon beau-frère qui était là parce que pour l'instant, il vit chez moi. Le temps que je le radicalise bien aussi. Et donc du coup, il m'a posé des questions. Ce qui s'est passé. Il a fait semblant de ne pas connaître le dossier.
Oui, bien sûr.
Très bien, on sait comment ça se passe. Je lui ai expliqué. C'était une personne super agréable, ça va. Ça s'est bien passé. Il m'a posé des questions sur mon passé, mon cursus scolaire, ce que je faisais et tout. Mon militantisme. Il était content que je faisais partie de la CGT.
Ah bon ?
Ah oui, il était content. J'étais surpris aussi. Est-ce qu'il était content que je faisais partie de la CGT ? Pour lui, j'étais pas radicalisé. Je sais pas. En tout cas, ou peut-être que lui aussi, c'est un admirateur de la CGT. De loin, c'est pas. Ça peut exister des policiers.
Ouais, bien sûr. Hein.
Et puis voilà. Donc ça s'est bien passé. Donc il m'a posé des questions sur ma publication Facebook, tout ça et tout. Et puis il m'a fait comprendre qu'il s'est déplacé pour rien. Moi, je lui ai dit, vous n'êtes pas déplacé pour rien. Enfin, je parle aux deux. Je sais déjà, ça me conforte parce que le travail est fait. Donc vous allez me laisser tranquille, même si je suis sur les radars pour le moment, déjà. En plus, on sait que s'il y a vraiment quelque chose sera certainement fait déjà. Et franchement, ils ont plus tourné en dérision la principale.
Un peu comme on l'a fait.
Un peu comme on l'a fait, l'instant que.
On aurait pu les inviter finalement.
Franchement, je pense. Mais il m'a dit non, il m'a dit écoute, dès que je sors de chez toi, c'est comme si que tu n'as plus existé, on n'a jamais parlé.
Ouais.
Peut-être le message effacé. Hein.
Ah oui, parce qu'on.
J'ai jamais effacé. Hein. Ouais, j'ai tous les anciens faits et messages, ceux d'après, mais pas celui-là. Ouais. C'est dommage parce qu'il était sympa, tu vois.
Ouais.
Et voilà quoi. Donc,
En attendant, t'es licencié ?
Je suis licencié en attendant. Donc en attendant, on va voir ce qu'on peut faire.
Avec la CGT, c'est
avec
ça,
la CGT. Ouais. Pour moi, il ne faut pas lâcher l'affaire parce qu'on peut imaginer qu'un jeune étudiant, un futur jeune étudiant qui a ED, qui a la vingtaine, qui ne sait pas se défendre et qui lui arrive le même camp, et que malgré lui, il est animé de bonnes intentions, ça peut le désespérer, lui faire un blocage psychologique.
Oui, et puis c'est comme ça que. Parce qu'ils sont en train de créer, en fait.
Exactement.
Du soi-disant séparatisme, c'est eux qui le créent, là, avec ce genre de choses.
Ils sont en train de créer le séparatisme avec ce genre de choses. Et c'est pour ça que s'il serait tombé, je ne dis pas que je suis plus intelligent qu'un autre, je suis déjà un djihadiste, donc ce n'est pas le problème. Voilà, quoi. Mais bon, voilà, mais s'il serait tombé sur quelqu'un faible d'esprit, qui se serait braqué. Tu vois, c'est grave, hein, c'est très grave des accusations comme ça.
Oui, bien sûr. Hein.
Et si je serais tombé sur des policiers un peu cons et fascistes qui m'auraient défoncé la porte à 5h du matin, qui m'auraient tiré par le collet, tu vois, de mon lit, tu vois. Ah, c'est ça, moi j'ai des enfants, j'ai. Voilà quoi. Donc, un rappeur djihadiste, ça n'existe pas, je serais peut-être le premier.
Mais c'est quand même. Enfin, ton histoire, là, pour conclure, c'est quand même. Une illustration, quand même, on a beau, parce que nous on rigole, parce qu'on aime bien rigoler, mais c'est quand même une illustration absolument dramatique des ravages de ce qu'on peut. Alors, on n'a pas le droit de dire islamophobie, hein. Donc,
bien sûr, c'est interdit. Le ghetto, on n'a pas le droit déjà.
Non plus, parce qu'on est en France, c'est la République, laïcité, gratuité, féminité.
Autrement, si tu veux, là, on est à Tourcoing, on va à Roubaix. Roubaix, c'est plus la République française.
Ah oui, c'est vrai, oui. C'est la wilaya de Roubaix.
C'est la wilaya de Roubaix, tu vois.
Bon, merci Ibrahim. Ouais, tu veux ajouter un truc ?
Sur le dommage psychologique, il y a un rapport interministériel qui est sorti en 2019. Je l'ai eu, normalement, j'avais pas le droit de l'avoir. Mais je suis tombé dessus, 200 pages, où ils incendient la ville de Roubaix d'ailleurs.
Ah ouais.
Ils parlent des dommages psychologiques des Roubaisiens.
Ouais.
Et que ça risque de s'empirer avec le confinement.
Mm-hmm.
Et je pense qu'avec ces lois séparatistes et tout ça, en fait, ça va encore créer plus de choses.
Ouais.
Donc je pense qu'il faudra en parler. Ouais. Ouais. Parce que tu as des endroits comme Roubaix où d'ailleurs la moyenne de vie elle est plus courte, elle est de 65 ans seulement. Et il y a un fort taux de suicide contrairement à ce qu'on croit. Donc je pense qu'il faut parler des dommages psychologiques que peut causer et engrainer.
Tout ça sur un fond de chômage massif,
exactement,
de précarité.
Exactement, exactement.
Merci Brahim.
De rien, merci à toi.
Et on vaincra, Inch'Allah.
Inch'Allah.
À droite, certains participants affichent de manière tranchée leurs convictions sur ce débat.
Je pense qu'il est plus qu'utile, qu'il est même indispensable. Et qu'il est temps qu'on réagisse parce qu'on va se faire bouffer.
Par qui ? Par quoi ?
Par qui, par quoi ? Il y a déjà 10 millions. Hein ? Mais il faut bien réfléchir. 10 millions que l'on paye à rien foutre.
Ça jase,
On a fait le hella dans le village, que vois-je? La Gaule est envahie par les sauvages, outrage. On a fait criser tout le voisinage en sortant les derbogas dans la salle de mariage, ils ont la rage de voir nos tronches dans les parages. On a sali la moquette, les murs et le carrelage, semé la zizanie, foutu le feu à leur étage, salopé leur paysage, on leur a fait un petit carnage, sacrilège. Y'a du halal à la cantine, la charpa dans la cuisine, des hijabs à la piscine et des jolis tapis de prière dans les usines. Ils ont tellement les nerfs qu'ils sont accro à l'aspirine. Mais là c'est trop tard, on a passé la douane, on a passé la frontière, reprend à Doliprane. C'est de la chanson française qui leur fait mal au crâne. Tu m'étonnes qu'ils supportent plus nos coins. On a saboté la langue de Molière, démasqué le racisme de Voltaire. On a planté la tente, maintenant faudra s'y faire. Les nègres vous emmerdent comme dirait M. Césaire. T'as vu la gueule du patrimoine, on a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça jase, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar. T'as vu la gueule du patrimoine, on a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça jase, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine. Les du folklore et de la danse du vent, de l'exotisme, servi avec un thé à la menthe. Des petites pâtisseries, des fatmas obéissantes, bien dociles pour ramasser, nettoyer, torcher leur viande. Mais que dalle, le projet a capoté, le plan a mal tourné. Laisse-moi jubiler, ils sont tout pâles. On a cassé le gouvernail, aïe aïe aïe. On leur a foutu la pagaille, si tu croyais qu'on allait dire merci. Merci la France, merci Sarkozy. Toujours poli, wallah je suis intégré. Tu peux toujours courir pour faire de moi un bruit, oui oui. T'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça jase, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar. T'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça jase, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine.
Sympa cette musique,
merci,
le métissage, le brassage des cultures, ces jeunes qui expriment leur colère, j'adore.
Ouais, c'est mignon, un petit beurre qui rappe sur ta musette. Voici MC Cosette, fais-nous des chansonnettes. À quoi le contestataire, à la bonne franquette. Symbole d'intégration, c'est du Zola en casquette. Vas-y, fais-nous chialer sur un air d'accordéon. Raconte-nous tes petites histoires d'enfants de l'immigration. Raconte-nous les contrôles, les discriminations. Allez, réveille en nous un peu d'indignation.
D'habitude, j'aime pas le rap.
Ah bon?
Mais ce que j'aime chez vous, c'est que vous ne tombez ni dans la victimisation, ni dans les clichés. Et puis, quelle maîtrise de la langue française.
Va te faire mettre avec ta langue française. Tes compliments, pour moi c'est de la foutaise. Que du blabla qui me fait perdre mon temps. Alors emballe tes bons points et tes encouragements dans ma zone d'expression populaire. Y'a que des petites gens et des bougnoules en colère. Des râleurs, des cassos, des criseurs et des brailleurs. Tu marches avec nous ou tu vas voir ailleurs. T'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça jase, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar. T'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça jase, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar. T'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça jase, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar. T'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça jase, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine.
Radio Campus 106,6.